Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes tout compris, avec un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau aujourd'hui, c'est Pierre Gropot du magazine Vanity Fair, notre partenaire mensuel. Cher Pierre, bonjour.
Bonjour Caroline.
Bienvenue à vous dans cette émission une fois par mois. Cette semaine, vous allez nous parler des Pompéiens et des Pompéiennes.
Absolument, et on va se poser la question de savoir s'ils avaient du pain le dimanche.
Alors à tout à l'heure, 12h25, à 12h15 avant vous, c'est Matteo Caranta et sa madeleine. Bonjour Matteo.
Bonjour Caroline.
Qui donc nous raconte sa madeleine aujourd'hui ?
Eh bien, j'ai rencontré la soprano Elsa Dressig et sa madeleine, elle, se situe tout au nord de l'Europe.
À tout à l'heure. Et quant à nous, pour le plat du jour, nous allons parler de l'aliment de la survie, le ferment de la révolte, le garant de l'ordre. Avec un homme qui s'identifie depuis près de 50 ans à cet aliment qu'il étudie, qu'il goûte, qu'il connaît jusque dans ses moindres grains, un historien qui se reconnaît dans la formule du dramaturge Jean Anouilh, « J'aime la réalité, elle a le goût du pain ».
Je vous demande pardon si j'ai pas fait de pain aujourd'hui. C'est à cause du doute où je suis. J'ai plus la tête à moi. J'avais peur de vous fabriquer du pain avec de la sciure ou de vous pétrir des brioches à l'eau de Javel. Mais si vous me ramenez mon Aurélie, alors là, vous aurez un vrai boulanger. Je vous ferai un pain comme vous n'avez jamais vu. Un pain qui sera si bon qu'il ne servira pas d'accompagnement pour autre chose. C'est un pain qui sera un délice, un régal pour les gourmets. Vous ne pourrez plus dire « j'ai mangé une tartine de fromage sur du pain ». Vous direz « j'ai mangé une tartine de pain sous le fromage ». Je pétrirai 5 kilos de pain tous les jours pour les pauvres. Et dans chaque pain que vous aurez, il y aura une grande amitié et un grand merci.
Bonjour Stéphane Kaplan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Bonnes Choses. Est-ce que l'historien du pain que vous êtes a vu la femme du boulanger avec Rému ?
Bien sûr.
Et en garde un souvenir
ému.
Ému.
Ému et pas l'homme, et pas sa maestria, mais aussi par le texte qui est un texte intéressant. Et puis ce qu'il vient de dire, le pain comme objet en lui-même, un plat, un mets véritable, ça j'y souscris à 100%.
Vous y êtes très attaché, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous affirmez, c'est ce que vous clamez dans ce qu'on peut appeler un cri d'alarme et d'amour qui a pour titre « Pour le pain » aux éditions Fayard, qui est un énième ouvrage sur le pain, puisque vous y avez consacré déjà des dizaines d'ouvrages, tant sur sa dimension politique qu'économique ou culturelle. Le pain est un véritable objet. Ça fait près de 50 ans, Stephen Kaplan, que vous travaillez sur l'histoire du pain, que vous avez écrit des livres, que vous avez consacré des colloques, donné des cours, que ce soit à Cornell, aux États-Unis, à la Sorbonne, à Sciences Po, etc. Est-ce que vous avez encore des choses à découvrir sur le pain ?
Le pain est chose vivante, donc il est tous les jours autrement. Le pain est aussi tellement consubstantiel à la culture française et à son histoire que quand on relit l'histoire, quand on suit ce qui se passe sur le plan de tous les jours, de tous les débats sur la régulation qui commencent dans les Lumières, les débats sur l'identité qui peuvent descendre parfois au niveau des fournils, des troglodytes, mais pour un tas de choses. Le pain pénètre un peu partout. Il est dans votre vocabulaire. Il fait partie de votre roman national. Il construit beaucoup de gens qui sont dans le métier ou dans la filière. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui, je crois, jusqu'à la fin, pour moi, va être inépuisable.
C'est ce qui fait que vous en faites un fait social total. Pourquoi le pain est-il l'un des moyens d'explorer en profondeur la société française ? Et spécifiquement la société française, il existe des pains dans beaucoup d'autres pays, mais chez nous, on a une exception, c'est que le pain, il a une dimension politique, économique, culturelle, etc.
Oui, le pain d'abord, évidemment, c'est la vie, c'est la survie, c'est la ration vitale pendant des siècles et des siècles. C'est aussi à travers le pain, ou plus précisément les grains, que l'État se construit, que l'État puisse approprier pas des voies fiscales, de quoi tenir le monopole de la violence et de la justice. C'est le sacré, le corps du Christ. Pour les chrétiens, c'est le pain, mais pour d'autres religions également, il y a une dimension liturgique extrêmement importante dans le pain. Le pain a une communion profane qui va au-delà des chapelles, car c'est en rompant le pain que le copain est fait, que le compagnonnage est fait et que le lien social est tissé. Le pain, c'est un fait politique, car le chef de l'État, roi ou président, ne peut pas être légitime s'il n'est pas garant d'un prix de pain qui est accessible, d'une qualité de pain qui est acceptable. Ça, c'était vrai pour Louis XV, mais c'était vrai aussi pour les présidents beaucoup plus récemment. Quand je réfléchis qu'en France, le prix du pain était fixé, on dit taxé, jusqu'à la fin de 1986. C'est un anachronisme total, mais ça trahit l'emprise symbolique, en quelque sorte morale, du pain dans la vie française.
C'est ce qui fait que vous écrivez « La France a vécu sous la tyrannie des grains pendant des siècles ». Mais ça, c'était avant que la consommation du pain ne chute considérablement, puisqu'on est passé, si je suis vos chiffres, Steven Kaplan, de 600 grammes par personne par jour en 1900 à 90 grammes aujourd'hui.
Même moins aujourd'hui.
C'est ce constat amer que vous faites dans Pour le pain. Le pain n'est plus ce qu'il était en France. Il est à la fois délaissé, puisque chute de la consommation, et puis il n'est plus toujours de bonne qualité, si bien que vous parlez de l'effacement du pain. C'est ça l'objet de Pour le pain, votre dernier livre.
En grande partie, c'est un livre doloriste, c'est une espèce de déploration, mais aussi j'essaie de sonner le tocsin. Qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Évidemment, on rentre dans une certaine modernité. Donc c'est normal de délaisser les calories lourdes qui étaient nécessaires pour vivre avant la mécanisation, avant les transports en commun, avant le chauffage central, etc. Donc, une partie de la chute de la consommation, c'est juste le reflet d'une amélioration du niveau de vie et de la diversification du régime alimentaire. Mais ce qui s'est passé en France, c'est beaucoup plus grave, parce qu'il y avait d'une part une désaffection sensorielle réelle. Les gens, de plus en plus, n'aimaient pas le pain, et ça continue jusqu'à nos jours, d'une part. Et d'autre part, il y avait une attaque contre le pain menée par ce que j'appelle une contre-culture, des gens qui détestaient une modernité qui est incarnée par l'industrialisation, par les amendements ou les engrais chimiques en agriculture, par le remplacement de la meule par le cylindre métallique en meunerie, par le remplacement du levain par la levure dite chimique, pour péjorativiser la chose, dans la planification. Donc ces gens-là ont dit pas simplement que cette modernité n'était pas acceptable, mais que cette modernité était toxique. C'est-à-dire, on a des titres de grandes magazines dans les années 30 et 40, « Le pain est la cause principale du cancer ». Réfléchissez, quand même, c'est gravissime. Et ce sont des gens qui sont parfois médecins, souvent des gens qui sont engagés dans une espèce de proto-écologie. Donc ça a ébranlé beaucoup de Français pendant quasiment tout le siècle. Ça revient aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'avec la montée du bio, peut-être la tyrannie de demain, avec le surgissement des paysans boulangers qui sont très sympathiques, sauf dans la mesure où il ne peut pas s'empêcher de diaboliser tous les boulangers dits conventionnels qui travaillent évidemment avec une pratique que les autres considèrent comme nocif. Donc on a une situation aujourd'hui qui en quelque sorte prolonge ce que je considérais comme pathologique déjà à partir de la Première Guerre mondiale.
Mais Steven Kaplan, est-ce que les deux faits ne sont pas liés entre déclin de la qualité ou perte du goût du pain et mécanisation ou industrialisation pour aller plus loin, même si certains ont été peut-être radicaux dans la façon de voir les choses. La faute revient peut-être parfois aussi aux boulangers qui ont peut-être perdu un savoir-faire et qui ont fait un pain un peu moins bon.
La boulangerie est un métier dur. Donc, toute l'histoire de boulangerie, c'est une tentative de sortir de ce que Parmentier, au XVIIIe siècle, appelait l'esclavage. L'astreinte au levain, 4 fraîchis par jour, se mettre debout à 22h du soir pour le lendemain matin, vivre sans lumière quasiment dans des sous-sols dénoncés par Georges Sand dans ses échanges avec Agricole Verdiguier. Donc, on essaie donc de rendre le métier moins dur. Ça passe par la tentation moderniste, qui est une tentation diabolique, qui nous donne un pétrissage mécanique qui n'était pas en soi nocif, sauf quand c'est poussé trop loin, qui nous a donné des machines pour façonner ou tourner, qui étaient acceptables, sauf quand c'est poussé trop loin. Toute la question, c'est une question de dosage, une question de comment négocier cela, et certainement les boulangers sont allés trop loin. Et ça, c'était terrible.
Avec une perte de la qualité du blé qui uniformise les farines, par exemple.
Bon, autour de la ville de Redon, dans les années 50, il y avait 400 variétés de blé. Aujourd'hui, puisque l'État Jacobin, imposé un système de contrôle pour qu'on puisse commercer, échanger, marchander des variétés, faut que ces variétés soient inscrites dans le catalogue. C'était une forme aussi d'industrialisation, d'octroi de monopole. Pour être dans le catalogue, il fallait que la variété soit distincte, homogène et stable. C'est-à-dire tout ce que les paysans boulangers détestent parce que les vraies variétés ne peuvent pas être comme ça et surtout pas les semences paysannes dites blé de population qui sont extrêmement individualistes, si je puis dire. Donc l'État a imposé en partie ce processus dit d'industrialisation. En même temps, je ne suis pas un ludite, comme on disait dans le temps. Je ne suis pas un briseau de machines. Je ne crois pas qu'on pourrait dire que tout ce qui est touché par la mécanique ne va pas bien. Je connais beaucoup de paysans boulangers qui ont un ordinateur plus joli que le mien, qui ont une voiture plus jolie que la mienne, etc. Donc,
Mais est-ce que, Steven Kaplan, les choses n'ont pas commencé à rebasculer dans un autre sens, disons à partir du début des années 90, en 93 pour être précis, avec le décret pain qui a instauré la baguette tradition?
Oui.
Quand même, il y a un sursaut depuis quelques années.
Encore l'État Jacobin. Imaginez, oui, créer un pain d'appellation contrôlée, c'est pas décret de l'État que ça se fait. On est à la fin du XXe siècle. Le décret pain aurait dû tout changer. Mais le décret pain n'était pas souhaité par la masse des boulangers parce que c'était trop compliqué. C'était quoi le décret pain? Entre autres choses, c'était 8 ans de négociation entre toutes les parties prenantes. L'ouvrier était là pour protéger la levure. Les vendeurs de vitamine C étaient là pour protéger les additifs, les auxiliaires technologiques et autres améliorants, etc., etc. Ils sont sortis avec une bonne idée. C'était de créer un pain à laquelle on donne le droit de brandir la tradition en France incarnant tout ce qui est bon et rentrant dans la logique donc d'un refus d'une certaine modernité excessive. Mais ça voulait dire qu'il fallait renoncer aux additifs, aux améliorants, et il fallait éviter toute forme de surgélation. Une fois qu'on dit ça, on est obligé de retourner à une longue première fermentation. C'est le geyser de tous les goûts et de tous les arômes.
Le temps de la fermentation.
Longue fermentation, 3-4 heures en masse. Mais c'était compliqué pour les boulangers de passer d'une méthodologie, disons, où ils étaient bien assistés par un tas de choses, et leur disant, tu vas trouver tes solutions rhéologiques, physico-chimiques, tu vas trouver tes solutions gustatives et aromatiques en faisant longuement fermenter. Les boulangers étaient désarçonnés. Et donc, dans un premier temps, personne ne faisait la baguette de tradition. Quand j'ai fait mon guide au début du XXIe siècle, ouais, sur les 600 boulangers que j'ai visités, sur 1200 intramuros à Paris, la moitié en faisait. Aujourd'hui, tout le monde en fait, mais les 3/4 des Français n'en mangent pas. Et je ne veux pas entendre dire c'est parce que c'est trop cher. Je crois qu'ils n'en mangent pas parce que je crois qu'ils ne savent pas discerner, désigner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon.
Alors comment retrouver le goût du bon pain ?
Le goût, ça commence avec des boulangers eux-mêmes qui ne dégustent pas leur propre pain. Le boulanger a tendance de dire, c'est pas parce qu'il est arrogant, c'est pas parce qu'il est français, que c'est parce que ça fait partie de son histoire. Je l'ai fait, donc il est bon. Ça, c'est une tautologie, ça mène dans le mur. Et le consommateur a tendance à dire, ah, je sais tout, je sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et quand j'interroge, je dis, mais dis-moi ce qui est bon. Ça, c'est bon. Mais pourquoi il est bon? Il est bon parce qu'il est bon. Encore une tautologie, une espèce de retraite, de recul dans une subjectivité un tout petit peu bornée.
Donc on va donner des arguments un peu plus simples pour savoir qu'est-ce que ça veut dire quand un pain est bon. On va juste laisser passer la Madeleine de Matteo Caranta, Steven Kaplan. On vous retrouve tout de suite après.
Si on ne mange pas de pain, un jour, il n'y en aura plus. Le pain, c'est encore meilleur quand on le mange.
c'était une campagne officielle de 1995, vous voyez. Alors, Matteo Caranta, vous êtes allé chanter.
Absolument, et pas du tout de manière tautologique, je vous rassure. J'ai rencontré Elsa Dressig, qui a publié en janvier Morgan chez Warner Classic, un disque où elle chante les mélodies lyriques de Strauss, de Duparc ou de Rachmaninoff. Et pour la soprano, ces lieds sont autant de voyages initiatiques où on évoque la perte, la mélancolie ou le vent glacial de l'hiver, mais dans lesquels on pressent le plaisir du printemps. Eh bien, la Madeleine d'Elsa Dressig se mange aussi en hiver, et la soprano nous emmène en voyage jusqu'à ses racines danoises.
Ma Madeleine à moi, ce serait un gâteau danois qui s'appelle drømmekage. Drømmekage, ça veut dire le gâteau de rêve. Quand ma mère le cuisinait, c'était vraiment synonyme d'un dimanche tranquille à la maison, en famille. Donc c'est autant le plaisir gustatif, le goût, que ce que ça allait signifier dans la journée, quel genre de journée allait arriver le jour où ma mère faisait ce gâteau. Alors, un drømmekage, ça ressemble, si on veut, à une sorte de pâte de gâteau, comme un gâteau yaourt ou un gâteau, une base assez neutre, sur lequel, au-dessus, on fait un mélange de beurre avec du sucre brun. Ça fait une petite croûte, si on veut, caramélisée. D'ailleurs, c'est assez beau parce que ça a une couleur très sombre. En fait, on oublie presque que c'est du sucre parce qu'on n'a pas la couleur blanche qui serait associée à la couleur du sucre. Donc, en plus, enfin, le meilleur, c'est de le manger chaud parce que comme ça, le goût qu'on en a est encore très subtil. Parce que quand ça devient froid, c'est peut-être un peu plus brut. Et ce que j'aime dans ce gâteau, c'est qu'il n'est pas que sucré, il n'est pas étouffe chrétien. Il y a le côté vaporeux et ça donne à la fois une texture légère en bouche, mais en même temps assez croquant pour avoir un peu de plaisir à mâcher. Alors quand je croque dans un drømmekage, ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est le Danemark. Et donc je ressentais l'émotion que j'ai à chaque fois que j'atterris au Danemark. Donc ça me replongeait aussi dans l'hiver au Danemark, le Noël avec ma grand-mère, avec la musique classique qui tourne en boucle chez ma grand-mère, non-stop.
Alors quelle est la musique du drømmekage ?
La chanson du drømmekage, le compositeur danois un peu dans la culture classique, c'est Carl Nielsen. Il a écrit une très jolie mélodie danoise qui s'appelle donc « Sæng kondit hoved du blomst ». Sæng kondit hoved du blomst, bøj dig i bladene ned. Sæng kon med lukket krone.
Merci Matteo Caranta pour ce gâteau des rêves danois par Elsa Dressig. La première bouchée de pain, est-ce que c'était un pain de rêve, Steven Kaplan ?
C'était un pain qui est inscrit dans mon cortex frontal depuis toujours. C'est un moment grisant, c'est un moment formidable parce que c'était un accident. J'arrive pour la première fois à Paris, j'avais faim, je rentre dans une boulangerie, j'étais éberlué par cette variété de choses, par les odeurs qui étaient formidables. Je demande un pain qui s'avère être un bâtard. Je sors, j'achète un petit bout de fromage et je me trouve au jardin de Luxembourg parce que je cherchais un endroit où je pouvais manger. Je m'installe devant la fontaine de Médicis. Mais puis, j'ai mis le pain à la bouche. C'était quelque chose de sismique pour moi. D'abord, il y avait une espèce de rush. Il n'y a pas d'autre mot. C'était quelque chose qui m'est entré dedans avec des arômes rétro-nasales de fleurs, de fruits, notamment cerises noires. Il y avait aussi un peu de patates douces. Et j'avais l'impression que j'allais aller comme Alice dans un grand trou, que j'allais pas m'en sortir.
Vous voyez, ça fait un moment que vous essayez de retrouver ce goût originel de la première bouchée de pain sur le sol français à Paris, Steven Kaplan. Alors, comme vous êtes un observateur participant de la filière de longue date, c'est comme ça que vous vous appelez, hein, et que vous savez pertinemment ce qui fait un bon pain, d'autant que vous avez un CAP de boulangerie, on a hésité à appeler un boulanger à la rescousse, mais on l'a quand même fait, parce que ce boulanger que nous avons au téléphone avec nous, il est boulanger manger un morceau, il a gagné le prix de la meilleure baguette tradition de France en 2019. Mehdi Courget, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce midi par téléphone. Donc, boulanger à Morteau, prix de la meilleure baguette tradition de France 2019. Alors, qu'est-ce qu'une bonne baguette de tradition?
Pour moi, une bonne baguette de tradition, c'est une baguette bien cuite, avec une croûte croustillante mais fine. Évidemment, énormément d'arômes à l'intérieur une fois qu'on la coupe. Et une fois qu'on l'ouvre en deux, on doit retrouver plein de petits trous à l'intérieur dans la mie ou sur laquelle, quand on tartine le beurre et la confiture, les gens se plaignent parce que la confiture coule. Mais ça, c'est vraiment signe d'une belle fermentation, en fait.
C'est ça qui fait la différence, la belle fermentation, plus que la farine?
Voilà, exactement. Déjà, un bon choix de matière première. Une bonne farine, déjà, ça, c'est très important. Donc après, quand on peut travailler avec une farine locale, c'est encore mieux. Et ensuite, une bonne baguette, il faut lui donner du temps. On ne peut pas réaliser une bonne baguette en deux heures comme ça, c'est pas possible. Il faut vraiment pouvoir lui donner du temps à une bonne fermentation. Et là, on va avoir vraiment plein d'arômes.
Mehdi Courget, pourquoi une tradition? Alors avant, vous étiez peut-être pas né, on disait rétro d'or. Et puis encore avant, on a dit banette. Maintenant, on dit tradition. Mais pourquoi une tradition plutôt qu'une baguette blanche?
Alors, en fait, Banette, c'est une marque de farine, Rétrodor aussi. La tradition, c'est vraiment une gamme de pain, on va dire, que tout le monde peut faire avec... ça nous certifie de pas avoir de correcteur dedans, d'améliorant. Voilà, c'est vraiment un pain dit à l'ancienne, sur lequel on y a laissé du temps et on n'y a pas ajouté de correcteur. C'est ce que ça veut dire, en fait, une baguette de tradition.
Donc la magie ajoutée au temps et puis au savoir-faire, et voilà, ça fait le prix de la meilleure baguette tradition de France 2019. Merci beaucoup Mehdi Courget d'avoir témoigné sur votre métier de boulanger, boulanger à Morteau. Steven Kaplan, alors 10 sur 10 à la définition du bon pain, je le répète, hein, il faut une bonne farine, c'est-à-dire des bonnes matières premières, une bonne fermentation, du temps et au final plein de petits trous dans la mie.
Les alvéoles, qui sont les lieux de mémoire de la fermentation, ce sont des trous qui sont inscrits de manière sauvage dans la chair. La chair ne doit pas être anorexique, il faut une chair charnue. Il faut, quand on pousse la chair, que ça revient. Mais il faut que ça ne soit pas blanc, il faut que ça soit nacré ou crème, parce que la couleur blanc nous dit que c'était oxydé, que c'était hyper pétri.
Vous en avez apporté. On a une farandole de pain que vous avez apporté, Steven Kaplan.
On a une baguette blanche ici, lessivée, dénaturée.
Il n'y a pas de petit trou là.
Insipide, sans intérêt, fait trop vite et mangé par la plupart des Français. Pourquoi? À mon sens, parce que justement, ils savent pas distinguer le bon et le pas bon. J'ajoute très rapidement, il y a 6 critères majeurs. L'aspect, il faut que ça évoque ou provoque une espèce de concupiscence visuelle. 80% de nos entrées sensorielles sont par les yeux. Le pain sollicite tous les sens. Donc, d'abord, l'aspect. Deuxièmement, la croûte. Faut que la croûte soit croustillante. Donc, un pain qui est correctement cuit. J'en ai marre d'entendre dire un pain pas trop cuit. C'est ridicule. D'autant plus que les boulangers ne disent pas aux clients le pain qui n'arrive pas à atteindre son apogée sensoriel n'est pas un bon pain. Or, pour arriver à son apogée sensoriel, il faut une croûte caramélisée et il faut une bonne mie et il faut un échange d'arômes entre les deux. Troisième critère, la mie. La structure de la mie, on vient d'en parler. La mie, donc, dégage des arômes. Ça, c'est un autre critère. Les arômes doivent être forts, intenses et variés. Et puis, ils doivent se traduire par les saveurs en bouche.
Quatrième critère.
On doit avoir une mâche, première entrée en bouche, qui n'est pas agressive, mais qui n'est pas non plus réfractaire. Et puis, les critères régaliens d'arômes et de saveur ou de goût.
C'est exactement, voilà, me semble-t-il, hein, ce cas, ce pain que je tiens à la main, qui sent merveilleusement bon, qui a une croûte très colorée, une mie très alvéolée. C'est quoi ce pain-là? On va le goûter. Hein.
Ce pain-là est une tourte de meule. C'est un pain qui est fait avec une farine dite 110, c'est-à-dire semi-complète. Les chiffres 110, c'est un taux de cendre, ça n'a pas d'importance pour vous. C'est fait avec une longue première fermentation en masse. C'est cuit à chaleur descendante, tombante. Et c'est un pain qui est extrêmement engageant. C'est un pain qui est vraiment intéressant.
Mathéo, je vais vous laisser annoncer Pierre Gropot, puisque je viens de croquer dans ce pain merveilleux.
Bien sûr, et bien, cerise sur le gâteau de cette émission sur le pain, c'est la chronique de Pierre Gropot.
Pierre Gropot, alors vous allez nous parler des Pompéiens et des Pompéiennes, et surtout du pain du dimanche.
Exactement, c'est la question que je me suis posée récemment, Caroline, en apprenant que l'exposition du Grand Palais consacrée au plus célèbre des chantiers archéologiques au monde, une section entière est consacrée à l'alimentation de ces lointains romains, chez qui une trentaine de boulangeries ont été attestées. La question évidemment est anachronique, mais bon, elle m'a semblé d'autant plus brûlante que récemment, il m'a été impossible de trouver du pain, des croissants et même n'importe quelle viennoiserie un dimanche matin. Je ne vous parle pas d'un pays lointain en prise aux pénuries alimentaires dont le gouvernement aurait déclaré une allergie nationale au gluten. Non, Caroline, je vous parle de Paris. Comme beaucoup, je sais ce que sont les déserts boulangers. J'ai connu, dans une banlieue qui me semblait s'étirer à l'infini, le pain des hypermarchés. Des milliers de baguettes vendues à la chaîne dans des hangars immenses pour nourrir les appétits légitimes du département des Yvelines. Boulanger, c'était ringard, et l'écrivain Graham Greene avait beau dire que la meilleure odeur, c'est celle du pain, cette chose blanche couverte d'une croûte vite ramollie ne sentait absolument rien. Aujourd'hui, les boulangers sont à la mode. Pas partout, on le sait bien, mais il existe des as du levain, des stars de la baguette et des virtuoses de la niche, dont chaque vidéo est un carton sur les réseaux sociaux. Leurs images sont hautement addictives, à croire que ces croûtes brunes qui craquent, ces pattes qui lèvent, réveillent, surtout en time-lapse, quelque chose de primitif dans un coin de notre cerveau. Je me suis donc mis en quête de ces boulangers d'un nouveau genre. J'étais heureux, ils s'appellent Maniche, Panifica, Liberté ou même plus intellectuellement du pain et des idées. Trouver de la philo dans les trous d'une Nibio, ça avait l'air génial. Manger du pain et vous deviendrez Spinoza, Hegel et Descartes en même temps. Dans le genre expérience ultime, il y avait de quoi céder. Hélas, j'ai la chance d'avoir un travail, Caroline, et ça se passe en général du lundi au vendredi. Le samedi, je fais mes trucs, la lessive, le ménage, le récurage, rien de très sexy. Mais le dimanche, c'est une autre histoire. Et ceux qui aiment cuisiner le savent. On dresse alors une jolie table, le bourguignon préparé la veille est prêt à être échauffé. J'ai alors essayé d'aller dans ces boulangeries d'un nouveau genre, et là, surprise, elles sont toutes fermées. Le dimanche, donc, on n'a pas droit au pain branché. Alors quoi faire? Il existe encore quelques vraies boulangeries. Ce ne sont pas des stars d'Instagram. Le décor n'est pas photogénique, le vendeur n'est pas mannequin à mi-temps et la vendeuse porte haut ses 60 piges. La déco n'est pas signée d'un architecte branché. Et en fait, c'est exactement là où on a envie d'aller. À Lyon, à Lille, à Bordeaux, dans des villages du Perche ou du Cantal, ces artisans qui ne se la ramènent pas sont les conservateurs d'un savoir-faire qui a nourri l'humanité. Et même le dimanche, tout le monde a droit à sa Madeleine de Proust. C'est ça, d'où qu'on vienne, qui nous fait un peu français. Chère Caroline, il me semblait ici bienvenu de les remercier. Les Pompéiennes et les Pompéiens, pour qui le dimanche n'existait pas, et qui, comme nous, aimaient le pain et les jeux, auraient certainement apprécié.
Merci Pierre Gropot. Merci beaucoup Steven Kaplan. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Pour le pain, une façon de retrouver le goût du pain, le savoir-faire du pain, etc. C'est édité chez Fayard. Les bonnes choses se poursuivent en réécouté en podcast sur le site de France Culture. Tout le monde est en train de manger du pain. Toute l'équipe, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Sylvain Latu, vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Culture. Dans un instant, le journal.